Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on va passer encore dans ta parole. Tu as commencé déjà en parlant à nos cœurs, Seigneur, et tu nous prépares, Seigneur, à recevoir ta parole. Je te demande, Seigneur, que nos cœurs se rouvrent complètement pour recevoir tout ce que tu veux faire dans nos vies. Avec les versets de ta parole, Seigneur, tu bâtis notre foi, mais aussi notre vie se bâtit sur ta parole. Et on veut bâtir notre vie sur le roc, sur ta parole, et mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Je te remercie de ce que tu vas faire aujourd'hui. Je te donne pleine action, pleine liberté, Seigneur. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alléluia. Pendant qu'on était dans la louange, ben, un petit peu avant, je priais le Seigneur. Seigneur, donne une parole pour nous enligner, pour confirmer. Vous prenez-les comme vous voudrez. Puis savoir si vraiment Dieu parle dans cette église. Est-ce qu'il y en a qui le croient que Dieu parle dans notre église? Quand notre frère a parlé tout à l'heure avec une parole qui venait sur son cœur, il a dit qu'il fallait se préparer parce que Jésus revient bientôt. Puis il a dit aussi de faire les œuvres qu'on a à faire devant nous autres par rapport que le temps est court, puis on ne sait pas combien de temps qu'il nous reste à faire. Croyez-vous que ça pourrait arriver qu'un message soit à la suite de ce qui vient d'être dit? Puis si on entend ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, que le Seigneur parle. Ça se pourrait-tu que le Seigneur veut, il y a vraiment quelque chose à nous dire ce matin? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on vient aux réunions, dans mon cœur, je me prépare, je me dis, tu dois sûrement de quoi dire, Seigneur, un matin. Puis ce que j'essaie de faire, c'est de dire Amen à ce qui est apporté. Puis Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire oui, Seigneur, je veux qu'il en soit ainsi comme qu'il va t'être dit. Parce qu'on veut que notre vie change, on veut que notre vie devienne comme Jésus, on veut que notre vie soit bâtie sur la parole de Dieu. Fait que le Seigneur est là pour parler, mais ça peut arriver qu'on entend les messages, on a nos deux oreilles bouchées, puis nos yeux pour point voir et nos oreilles pour pas entendre, puis à chaque argument qu'on entend, on dit non, ça c'était dans ce temps-là, ou à chaque argument on dit, ça c'est pas pour moi, c'est pour l'autre, mais on commence à regarder les autres à qui la parole pourrait fitter. On n'avance pas dans ce temps-là, puis je crois que le Saint-Esprit est présent, puis il veut faire une œuvre. Puis si vous entendez des choses qui sortent de la parole de Dieu, dites « Oui, Amen, Seigneur, c'est ce que je veux faire. Change ma vie, je te donne pleine liberté de la changer. » Puis le Seigneur va le faire, parce qu'il a commencé déjà par nous avertir, il va nous confirmer, puis après ça, mais si on est ouvert, il va le faire par son Esprit. Puis notre vie va changer. C'est de même qu'un réveil dans une église. Quand les frères et sœurs sont attentifs à la voix de Dieu et qu'ils se laissent diriger par la voix de Dieu, là, on peut s'attendre à ce que Dieu nous conduise encore plus loin. Le titre de mon message, c'est « Être un serviteur selon le cœur de Dieu ». Dans le siècle qu'on vit, il y a une possibilité incroyable, même une course pour atteindre des niveaux d'autorité supérieurs ou du pouvoir sur les autres. Partout ce qu'on regarde, c'est la recherche d'aujourd'hui dans la nature humaine, de rechercher à avoir des autorités, des postes, puis d'être établi sur les autres, commencer à contrôler les autres. Ça fait partie de la nature humaine. J'ai vu des gens, moi, au travail, chercher à grimper les échelons pour commencer à donner des ordres aux autres. C'est à leur désir d'être en charge, d'être le boss, d'être celui qui amène les directions, les positions, parce que lui, dans sa tête, c'est son idée qu'il pense qu'il est bonne. Sa recherche était de chercher à dominer les autres. Je n'ai vu d'autres, même dans l'Église, qui recherchent les postes bien en vue. Je ne dis pas que c'est dans cette Église-ci. Mais il y a des gens qui recherchent être dans des postes bien en vue, dans le but de se mêler des affaires des autres, d'intervenir, parce qu'ils aiment contrôler, ils aiment se sentir être au-dessus des autres. J'ai vu ça aussi dans des foyers, où est-ce que ça sera qui aura le dernier mot? Ou même d'utiliser de la manipulation par les sentiments ou par la force pour arriver à ce que l'autre se plie à notre désir. Que ce soit l'homme envers la femme ou la femme envers l'homme, il y a comme une recherche de pouvoir qui s'installe dans la nature humaine et qui cherche à contrôler l'individu, à essayer de contrôler les autres. J'ai vu dans la société l'usage de contact puis d'influence que des gens utilisaient pour trafiquer les droits des autres. Parce qu'il y a des gens qui sont pas contents quand ça va bien dans d'autres vies, puis ils cherchent à utiliser des contacts pour essayer de manipuler les affaires, commencer à baisser une personne, commencer à ce que la personne puisse être démolie, pour contrôler son entourage, il utilise des contacts. J'ai déjà vu aussi même des livres qui disent comment contrôler les autres par son esprit. Parce que c'est la technique du nouvel âge aujourd'hui, à vouloir exercer un contrôle dans l'esprit des autres, puis d'arriver à approfondir une profondeur de son esprit dans conscience de, comme le nouvel âge l'enseigne, dans le Dieu de ce monde. Là, ils font qu'un avec la nature, puis avec Dieu, puis là, ils cherchent à contrôler les autres. Il y a des livres qui parlent dans ces sujets-là. C'est comme une recherche aujourd'hui à être comme ça. Vouloir atteindre des niveaux d'autorité supérieurs ou bien des meilleures conditions de travail ou un salaire plus élevé, c'est pas défendu, mais il y a certaines choses dont on doit prendre garde en tant que chrétien. Parce que l'argent, les relations, le crime, ils permettent à certaines personnes d'exercer leur autorité ou leur pouvoir sur les autres. Et souvent, c'est dans la méchanceté qu'ils l'exercent. Si on regarde les groupes comme la mafia, la PEG, le crime organisé, ou la tyrannie de certains pays, des gouvernements qui dominent sur leur pays, puis c'est avec la force, c'est avec la méchanceté qui écrase les autres. Puis tous ces gens-là que je viens de vous énumérer, ils se disent dans leur fond, même s'ils ne disent pas de leurs mots, c'est ce qu'ils pensent, que la fin justifie les moyens. En voulant dire, c'est pas grave les moyens que tu utilises pour arriver à ton but, du moment que tu atteins ton but. C'est pas grave si tu écrases les autres, c'est pas grave si tu en blesses d'autres, c'est pas grave si tu détruis d'autres personnes, du moment que tu atteins tes objectifs de grandeur. Jésus, dans Matthieu 20, le verset 25, je vais vous le lire, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Ça, c'est juste le premier point. La première ligne du verset. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Ceux qui sont en tête des nations, ils tyrannisent. C'est des tyrans sur les peuplades. Puis il dit que les grands, ceux qui sont grands dans la société, cherchent à asservir les autres. Continue dans la même pensée, il y a des gens qui trahissent leurs proches et leurs amis afin d'obtenir plus de prestige ou de meilleures conditions de travail. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour atteindre leurs idées, leur but de grandeur. Il ne faut pas penser que les Hells Angels, quand ils sont rendus Hells Angels, que c'est des bons gars. Ils ont tué pour être là. Pour atteindre leur but de pouvoir, de contrôle, de richesse, puis de l'organisation de crime, ils ont tué pour arriver là. Pour nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Je pense que quand le Seigneur nous prépare à nous dire « bâtis sur ma parole », c'est parce qu'il y a de quoi dans sa parole qui est contraire avec ce qui se passe dans le monde. Pour nous, on doit comprendre que c'est Dieu, c'est ce que Dieu pense de nous qui compte. Puis de grandir en autorité et en pouvoir dans le royaume de Dieu, c'est le contraire de ce qui se passe dans le monde. Si on veut être grand, on doit se laisser abaisser, on doit commencer à servir les autres. Dans Matthieu 20, quand j'ai commencé à lire le passage, j'ai dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent, mais il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Le Seigneur ne veut pas que ça se passe comme dans le monde, au niveau d'atteindre des postes d'autorité, contrôler les autres, et prêt à les écraser pour atteindre ses buts. Il dit, il n'en sera pas de même parmi vous. Parce que dans son Église, il y a toute une nouvelle optique, une vision nouvelle de comment ça doit marcher, puis c'est pas conforme à comment ça se marche dans le monde. Il dit, si tu veux être le plus grand, tu vas devenir l'esclave. Jésus ne veut pas que... si nous voulons être grands dans le ciel, il ne faut pas penser que c'est en étant meilleur que les autres qu'on va l'atteindre d'être grand. Tu sais, des fois, il se passe toutes sortes de circonstances, puis là, on voit comment ce que l'autre opère dans la vie chrétienne, comment est-ce qu'il met en service ses dons. Puis des fois, on est porté à regarder ça, puis à critiquer ça. Puis là, on se pense meilleur, parce qu'on aurait des capacités meilleures dans tel domaine ou dans un autre. Là, on évalue l'autre, puis là, on commence à s'élever. puis on pense qu'on est en train de grandir en autorité dans le royaume de Dieu. On pense qu'on va, que dans le ciel, on va avoir un bon poste parce qu'on a ce sentiment-là qui nous anime. C'est complètement le contraire. On est en train de s'abaisser dans le royaume. Il ne faut pas commencer à se comparer et à faire comme le monde. Un vrai serviteur de Dieu doit apprendre à regarder les autres comme au-dessus de lui-même. Dans Philippiens 2:3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Jésus nous a donné l'exemple. Il a passé avant nous autres dans ce chemin-là. Puis ça nous dit que, bien qu'il était Dieu, le Créateur de toutes choses, puis Jésus était connaissant de ce qu'il était dans sa vie présente, dans la chair. Il savait qu'il venait de l'autre bord. Il savait qu'il avait créé toutes choses. Et lui, dans son cœur, ce n'était pas comme une recherche d'une, ou une proie arrachée d'être égal avec Dieu ou de se monter dans la vie terrestre. Ce n'était pas ça son but, du tout. Même s'il aurait pu se le dire parce que c'était vrai qu'il était le plus haut, qu'il était le plus grand, qu'il était le plus puissant de tous les êtres sur la terre. Il n'y en a pas un qui était plus grand que lui. Mais lui, dans son exemple, il a dit qu'il est venu comme un... Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, puis il est devenu semblable aux hommes, puis il a paru comme un simple homme, puis il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Des idées de grandeur, Jésus n'en avait pas. Quand il est venu, il avait des idées d'abaissement, de s'humilier, de paraître comme un simple homme. Vous voyez, dans une foule de 100 personnes, il y en a des gens qui paraissent être des hommes de qualité, des hommes hauts dans la société, souvent par leur habillement, leur manière d'être, leur manière de s'exprimer. Mais tu aurais une salle pleine de personnes comme ça, et Jésus, lui, il sera comme un simple. Il ne cherchera pas à être comme les autres. Dans son cœur, il ne cherche pas à se comparer, à s'évaluer, à penser à être au-dessus. Il ne cherchera pas en dessous. Dans son désir de s'humilier, il a lavé les pieds de ses disciples. Il dit, « Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous le dites bien, car je le suis. » C'est ce qu'il dit, il savait. « Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Jésus, il a passé à travers de beaucoup de choses qu'il n'aimait pas. Ça n'a pas toujours été facile dans sa vie. Mais dans tout cela, la Bible nous dit que Jésus a appris l'obéissance. En Hébreux 5, le verset 7 à 9, ça dit, « C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui va le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Mais dans son temps de la chair, il a fait des prières, des supplications à celui qui pouvait le délivrer. Il s'humiliait, puis il priait. Il a passé à travers des situations qu'il n'aimait pas, mais il a appris, même s'il était le Fils, le Créateur, il a appris l'obéissance. Même s'il était le Fils, il a appris à obéir aux œuvres que son Père lui demandait. Jésus est un exemple du serviteur selon le cœur de Dieu. Il est venu pour nous servir puis donner sa vie. Dans Matthieu 20, 28, ça dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il avait choisi d'avance d'être ça. Maintenant, en Jésus, c'est nous autres qui sommes les serviteurs. On est devenus serviteurs par choix d'obéir au Dieu vrai, au Dieu vivant. Il y en a-tu qui disent amen à ça? Est-ce que vous avez fait le choix de servir Dieu dans votre vie? Est-ce que vous avez fait le choix de servir Dieu dans votre vie? Êtes-vous devenus des serviteurs?
Amen.
par bandeau, j'entends mal celle-là. Savez-vous qu'il y a deux maîtres qu'on peut avoir? Soit le péché qui mène à la mort, ou soit de l'obéissance qui mène à la vie. On a choisi d'obéir, de servir. On est devenu des serviteurs de Dieu. Dans Romains 6, ça nous dit ça. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On doit apprendre à vivre l'obéissance pour être un serviteur juste, même si ça ne fait pas notre affaire. Jésus n'a pas passé dans des situations faciles. Ça ne faisait pas son affaire, puis il a appris l'obéissance, même s'il était le Fils. Là, ça revient comme en parallèle avec nous autres. Est-ce qu'on est prêt à passer par l'obéissance, même si ça ne fait pas notre affaire? On doit apprendre à vivre l'obéissance pour être un serviteur juste. On choisit notre femme, mais on ne choisit pas nos frères et sœurs. C'est le Seigneur qui les a choisis. Il y a un verset qui nous dit, je vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi puis je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. C'est pas moi qui vous ai choisi, mais c'est le Seigneur qui a choisi que vous soyez chacun de vous ici dans cette assemblée. Si nous sommes tous ses serviteurs, on doit avoir de la solidarité entre nous, comme ayant tous le même maître. Si on est tous ses serviteurs établis par Dieu, on doit être solidaires les uns des autres, on doit marcher dans l'unité. On doit marcher ensemble pour faire selon la vision que le Seigneur communique à notre Église. Devenir des serviteurs, ça ne fait pas toujours notre affaire, mais je crois que le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans nos cœurs. Il veut conduire cette Église avec tous ceux que lui-même a établis ici. Il veut les conduire à aller plus loin, à devenir des serviteurs pour Dieu. Dans le passage de Matthieu 18, ça nous dit, « Alors le maître fait appeler ce serviteur, puis lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Ça parle de l'histoire que le gars, il n'a pas l'argent pour mettre la dette à son maître. Puis son maître, le gars, il s'est humilié, il a demandé d'attendre, puis de... Son maître qui a accordé, il a fait grâce, il a dit, « Correct, je vais attendre. » Lui, il a rencontré un autre de ses confrères qui était esclave, qui était serviteur du même maître, mais il devait de l'argent. Puis là, il dit, « Paye ce que tu me dois. » Là, il le pogne à la gorge, puis il l'envoie en prison. Puis là, les autres qui ont vu ça, ils ont été le dire au maître. Ils disent, « Hey, c'était celui-là qui avait remis la dette. Il a rencontré l'autre, puis il n'y a pas aucune pitié. » Fait que lui, le maître, il a fait rendre compte, puis il a dit, « Ne devais-tu pas avoir pitié de ton frère, comme j'ai eu pitié de toi? » Saviez-vous que Dieu m'a fait pitié, m'a donné grâce, il m'a dit, je t'affranchis, je te libère de tes péchés, je te remets ta dette. Maintenant, je te place ici à Châtelet. Chacun de vous, le Seigneur a fait la même chose. Il vous a remis votre dette, il a pardonné vos péchés, puis là, il vous a établi ici, puis on est tous ensemble serviteurs du même maître. Mais le Seigneur nous dit, ne dois-tu pas avoir compassion de ton frère, la même chose que moi j'ai eu compassion de toi? Ne dois-tu pas avoir pitié de ton frère, la même chose que moi j'ai eu pitié de toi? T'es-tu pas prête à faire la même chose à ton frère, comme que moi-même je te l'ai faite à toi? De te remettre ta dette, de te laisser attendre, de te laisser du temps, de te laisser libre? Avez-vous déjà considéré la manière que les gens discutaient dans l'Ancien Testament? Je parle des hommes de Dieu. Quand ils se rencontraient, ils étaient toujours polis entre eux autres. Imaginez-vous Abraham. Quand il rencontrait une autre personne, il y avait du respect entre les gens. Et quand il s'interpellait et il s'appelait un l'autre, il disait, « Seigneur, je ne suis pas digne. » Là, il s'humiliait, il se prosternait devant l'autre individu qui se tenait à ses côtés. Il y a plusieurs exemples de ça dans l'Ancien où ce que les gens, c'était ça qui était leur mode de vie, ceux qui craignaient Dieu. Ils respectaient les autres, ils étaient prêts à appeler l'autre Seigneur, puis ils s'humiliaient en se prosternant devant l'autre. Ils ne cherchaient pas à être au-dessus et à l'écraser. C'est complètement le contraire. Ils s'humiliaient. Il y a d'autres passages, ça nous dit que les femmes doivent imiter l'attitude de Sarah, une attitude d'honneur et de respect envers son mari. Dans 1 Pierre 3, ça nous dit, versets 5-6, « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » C'est la même attitude qui se passait qu'Abraham avait envers les autres, ou d'autres hommes de Dieu envers les autres. La même attitude se passait entre la femme et son mari. Nous aussi, les hommes, c'est d'Abraham qu'on est devenu imitateur. Il appelait les autres Seigneur. C'était une attitude de respect et de soumission envers l'autre. Souvent, en donnant notre vie au Seigneur, on se sent comme libéré du monde et des pressions des autres. On vient dans une attitude qu'on ne veut plus se laisser asservir par quoi que ce soit. La minute qu'on sent une petite pression d'autorité, on est prêt à se relever, à se rebeller, à essayer d'annuler les effets de cette autorité-là en parlant contre. On se dit, on est chrétien, je t'ai franchi, je suis libéré, je ne me laisserai pas repogner dans un joug. Pourtant, être un serviteur selon le cœur de Dieu, c'est d'apprendre le respect des autres, comme le respect d'un patron envers son employé. Dans Colossiens 4:1, ça dit « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Les boss, les patrons, ne doivent pas se penser meilleurs, puis de se penser au-dessus, puis de commencer à écraser les autres. On doit se dire « Moi tout, j'ai un maître dans le ciel. » Il m'a accordé la grâce, moi tout fouchou, et dans une attitude de la grâce envers les autres. C'est la même chose que les employés envers leur patron. Servez-les avec empressement, que ça nous dit dans Éphésiens, comme servant le Seigneur et non les hommes. On ne doit pas se penser meilleur que notre patron. On doit le servir comme si on était en train de servir le Seigneur. On doit apprendre puis à respecter. On doit apprendre à respecter puis d'obéir aux autorités établies. Dans Romains 13:1, ça nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Chaque autorité qu'on voit, qu'on vit, que ce soit les autorités civiles, les autorités criminelles, c'est Dieu, c'est de Dieu que ça sort, ce principe d'autorité-là, puis d'exercer la justice, puis de tout le système de policiers, tout le système de... C'est tout un système qui vient de Dieu. C'est des autorités que Dieu demande que ses serviteurs se soumettent à ces autorités-là, en autant que ça ne va pas contraire à la parole de Dieu. Un autre passage nous dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. » La Bible a dit aussi qu'il faut respecter nos conducteurs spirituels. Si on est un serviteur selon le cœur de Dieu, on doit respecter l'autorité, les conducteurs spirituels que Dieu établit dans son Église. Dans Hébreux 13, 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Ça veut dire considération. Il faut considérer ceux qui dirigent dans le Seigneur. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui serait qui vous serait d'aucun avantage. Obéir, c'est comme Daniel, lui, il était placé là par le Seigneur pour être en autorité sur l'Église, pas dans le sens pour autorité, puis écraser, puis dominer, mais en étant le modèle du troupeau, mais il a à cœur le troupeau, puis il veut le bien-être du troupeau, puis il veut donner les instructions que le troupeau a besoin, puis il fait sa job, il veut la faire avec joie. Il veut la faire sans sentir que ça ne passe pas. Parce que si le peuple se rebelle contre ce qu'il enseigne, ou qu'ils font le contraire, ou qu'il y a le désordre complet, ça ne peut pas marcher. il est prêt à vouloir en rendre compte de nos âmes, puis il est prêt à vouloir s'en occuper en autant qu'on est prêt à se laisser s'occuper par lui, puis de suivre ses recommandations, ses conseils qui viennent de la parole de Dieu. Continuer à être un serviteur de Dieu, c'est dans le respect des plus vieux aussi, puis dans notre rapport les uns vers les autres. Dans 1 Pierre 5, versets 5 à 9, ça nous dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Ça veut dire, aux anciens, c'est ceux qui sont plus vieux que vous autres. « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Cherchez pas à vous élever, à essayer d'atteindre des niveaux. Dieu peut vous élever et vous faire monter à des sommets que vous ne seriez jamais capable d'atteindre par vos propres forces. » Quand Daniel, je pense à l'exemple de Daniel, le prophète Daniel, qui était un juif qui vivait à Jérusalem, qui a été saisi par la déportation, les juifs ont été saisis puis ont été emmenés par le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, qui était un empire qui régnait sur toute la terre, puis le groupe de juifs ont été emmenés à Babylone. Là, tu es rendu comme dans un package où ce que tous les pas les réfugiés, mais les captifs qui sont dans. Mais le Seigneur a permis que Daniel, il ne reste pas à ce niveau-là. Daniel, il était amené à la cour du roi, il était placé à être le plus haut, le plus grand conseiller du roi. C'est Dieu qui l'a élevé. C'est pas quelque chose que lui cherchait à être, puis à chercher à écraser tout le monde ou se rendre. C'est quelque chose que Dieu lui a fait passer parce qu'il s'attendait à Dieu, et Dieu l'a emmené à la place que Dieu voulait l'avoir. Dans le même verset qui nous dit de s'humilier les uns les autres puis d'avoir du respect, ça nous dit « Soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Ça veut dire que le diable peut être en train de rôder, chercher à dévorer la minute qu'on sort de cette pensée-là d'être soumis mutuellement puis de se respecter. Le diable, il est là. Une pensée, as-tu vu qu'est-ce qu'elle vient de dire ou elle vient de faire ou elle vient de... tout ce qui se passe, ça, des fois, oups, on a une petite pensée, ah oui, puis là, on commence à analyser ça, puis là, on est en train de se faire dévorer par le diable, puis là, elle n'aurait pas dû faire ça, puis elle aurait dû faire ça, puis ça n'a pas de bon sens, puis on commence, puis on embarque, on continue à répandre ça aux autres, puis là, on y en rajoute, puis on en trouve, on va analyser ça de A à Z, puis on aura des inspirations à trouver des choses qui ne sont pas correctes dans sa vie, puis là, on l'écrase, puis nous autres, on se pense bien spirituel parce qu'on est en train de tout analyser la vie chrétienne d'une autre personne. Puis on s'élève, puis l'autre, on l'écrase en répandant ça à tout le monde. Puis aux yeux de tout le monde qui reçoit ces informations-là, voyez l'autre personne comme que nous autres, on est en train de l'emmener. Le diable est en train de dévorer, il est présent dans toutes les discussions. Croyez-vous que le diable peut être présent dans une discussion qu'un chrétien a? Quand il parle « ne donnez pas accès au diable », il parle de mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Ou bien quand on dit « oh, je te le jure », il dit « jurez pas aucunement », parce que quand tu rajoutes ça dans ta phrase, il dit « ça vient du diable ». Fais attention, il y a des choses qui peuvent sortir de notre bouche que c'est l'accès au diable bien raide pour détruire le peuple de Dieu. Jésus obéissait aux autorités de son temps. Quand il est arrivé, il n'avait pas d'argent pour payer le tribut qu'il fallait qu'il paye. Il a dit à Pierre, « Va à la pêche, pogne le premier poisson, rouvre-le à la bouche, il va une pièce de monnaie dedans, puis paye pour moi puis toi. » Afin de ne pas les scandaliser. Il a demandé, il dit, « Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les impôts? De ses fils ou bien des autres? » Ils ont tous dit c'est des autres. Les rois de la terre ne chargeaient pas de l'impôt à son fils. Sa famille était exempte des impôts. Mais elle dit, nous autres, pour ne pas scandaliser, vas-y puis paye. Mais en voulant dire, c'est à nous autres les rois, c'est à nous autres, ça appartient à tout le système. Si on voudrait, on ne payera pas, nous autres non plus. Il était conscient de ça, mais il a dit, il ne faut pas scandaliser, qu'on va lui donner ça, puis on va payer pour les deux. Il ne faut pas se penser maître ou au-dessus de la loi. Pour donner le bon exemple, on doit obéir aux lois de Dieu et aux lois civiles et criminelles. en tant que chrétien. Si on veut être un serviteur qui fait la volonté de son maître, un serviteur selon le cœur de Dieu. Maintenant, pour ceux qui pensent qu'ils ne devraient pas faire ça, qu'est-ce que je vous dis? Parce que je le sais, souvent, on est assis dans la réunion, on entend les enseignements, on entend les versets. Il y a quelque chose qui fait dans nous autres qu'on s'obstine à ne pas vouloir l'admettre, à ne pas vouloir le mettre en pratique, parce que ça va en contraire à notre conviction. Pourtant, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, mais on se trompe par des faux raisonnements pour essayer d'analyser, balancer ce qu'on est en train d'attendre pour ne pas l'avoir à le mettre en pratique. Ça se peut-tu, ça? Avez-vous déjà entendu ça dans votre esprit? Pendant que vous entendez quelque chose qui vient de la parole de Dieu, puis là, on le jongle, puis on le travaille, puis on fait tout. Ouais, mais ça, c'était dans ce temps-là, puis ouais, mais ça, c'est pour l'autre, puis là, ouais, ben moi, je suis pas vraiment comme ça. Puis là, on essaie de trafiquer ça, puis se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements, au lieu de mettre en pratique la parole. Pour ceux qui pensent qu'ils ne devraient pas faire ça, d'être soumis à un à l'autre, puis être soumis aux autorités, être soumis aux autorités dans l'Église, être soumis même envers ta femme, puis envers ton prochain, dans des respects, puis d'être prête même à penser que l'autre, c'est le Seigneur. Oui, je te servirai ton boss comme je servirai le Seigneur. Ça fait toute partie d'être un serviteur selon le cœur de Dieu. Savez-vous que vous êtes devenu esclave de Christ à cause de votre rachat? On a été rachetés. C'était le diable qui nous possédait. Jésus a payé le prix, puis il nous a rachetés. On lui appartient. On n'est plus à nous-mêmes, puis on n'est plus au diable. On appartient à Dieu. Puis on est devenu esclave de Christ à cause qu'on a été racheté. Si on arrêtait, mettez-vous dans le contexte d'un long temps, quand que une personne allait sur le marché et achetait un esclave, cette personne-là savait que l'autre était son maître, puis que lui était l'esclave, puis que tout ce que son maître lui demandait, l'autre était prêt à le faire. Il était obligé. Il était l'esclave. Il se faisait même poinçonner l'oreille, puis il était à son service. Des fois, on dit, ouais, en Christ, j'ai une pleine liberté, là, je veux prendre mes envols, faire ce que je veux, mes plans, mes projets. Non! Tu as été racheté pour obéir au Seigneur, tu appartiens au Seigneur. C'est le Seigneur que tu dois servir, puis tu dois obéir à tous ses enseignements, toutes ses recommandations. Parce que c'est lui le maître, on est son esclave. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » On ne s'appartient plus. On appartient au Seigneur. Y a-t-il un amen à ça? Si on est esclave de l'obéissance à Dieu, nous devons lui obéir en tout point. Jésus a dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Jésus, il s'adressait à ses disciples, à ceux qui disaient qu'ils croyaient, à ceux qui étaient autour de lui. Pas ceux qui étaient, c'est nous autres. Pourquoi qu'on va dire « Seigneur, Seigneur » qu'on n'est pas prêt à faire ce qu'il dit? Il l'est-tu le Seigneur ou s'il ne l'est pas? Obéir au Seigneur, c'est d'obéir à ses commandements. Puis en partie, en gros point, c'est contre le péché. Mais c'est d'être aussi fidèle dans le service qu'il nous demande. On le sait qu'on fuit le péché en Jésus. Ça, c'est pour notre être. On dit qu'on veut garder notre contact avec Dieu. On va fuir le péché afin que le péché ne mette pas une séparation entre nous et Dieu. Que le Saint-Esprit ne soit pas attristé et qu'on puisse marcher davantage proche de Dieu. Mais être serviteur de Dieu, c'est aussi être fidèle dans le service qu'il nous demande. À quelque part, le Seigneur nous demande plus que d'être. Il y a deux choses qu'on doit regarder en tant que serviteur. À être chrétien, pour être, il faut fuir le péché, il faut obéir au Seigneur dans les choses pour notre être, mais il y a aussi le faire. Qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Si on engage un domestique pour exécuter les tâches de la maison, puis il est poli, il est aimable, il est propre sur sa personne, puis il ne parle jamais mal contre son maître. Mais s'il ne fait pas l'ouvrage qu'on lui demande quand on lui demande, à quoi il sert? Si j'arrête un domestique, il a beau être propre, bien habillé, puis être poli, mais j'y dis, va donc laver la vaisselle, puis s'il va pas laver la vaisselle, il veut pas faire ce que je fais, à quoi ça sert d'avoir un domestique? Mais on est devenu serviteur de Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, c'est plus que être poli, être aimable et être propre. C'est être quelqu'un qui commence à faire ce que Dieu demande, ce qu'il s'attend qu'on fasse dans son Église, dans l'Église locale avec les dons et les capacités qu'il nous a données. En tant que serviteur, il veut que tu ne penses plus que tu t'appartiens, il veut que tu travailles à son service, que tu investisses de ton temps, de ta vie, de ce que tu es. Un serviteur utile, c'est un serviteur qui fait la volonté de son maître. Sinon, il est inutile. Si tu veux être un serviteur utile, il faut que tu le fasses. Si tu n'as pas l'intention d'obéir et de faire rien, tu es inutile. Il existe des milliers de façons de servir le Seigneur. Comme que je disais, c'est en donnant notre temps pour faire les choses pour faire avancer le royaume de Dieu. Quand le Seigneur nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice », puis les autres choses vont vous être données par-dessus. C'est parce qu'il y avait l'intention que dans notre vision de construire notre vie, que ce soit premièrement pour les choses de son royaume. Avons-nous oublié la parole de Jésus qui nous a dit, justement, ce verset-là que je viens de vous nommer, de chercher premièrement, en premier de tout dans votre vie, chercher les choses du royaume. Le fait de venir aux réunions puis d'écouter, ça ne fait pas de nous des gens qui servent. Ce n'est qu'une partie de ce qu'il nous demande d'écouter. Mais l'autre partie, c'est faire. Il faut sacrifier notre temps, de notre vie, en s'impliquant dans diverses activités pour son œuvre. J'entends pas gros amen à ça. Mais il faudrait que j'en entende plein d'amen. Il faut être prêt à sacrifier de notre temps, de notre vie, pour s'investir à mettre du temps pour l'avancement de son œuvre. Si vous dites que votre temps vous appartient pour faire vos affaires, comment interpréter la parole que Jésus a dit, que celui qui conservera sa vie la perdra, et que celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera? C'est pas juste dans l'idée mais j'ai abandonné le péché, maintenant j'appartiens au Seigneur. On n'a rien perdu encore, on conserve notre vie et on fait en cause ce qu'il nous plaît, sauf le péché, mais on fait en cause ce qu'on veut. Avons-nous réellement perdu notre vie? Ou sommes-nous vraiment prêts à perdre notre vie pour servir, pour son œuvre? Sinon, on est inutile. On peut être chrétien, mais est-ce qu'on fait les œuvres d'un chrétien? Ça, c'est une autre affaire. Avez-vous consulté Dieu pour l'usage de votre temps, de ce que vous devriez faire avec votre temps? Peut-être que là, il vous dirait, « Ouais, mais cette partie-là, là, tu pourrais éliminer ça, puis tu pourras faire autre chose à la place. » Là, on deviendrait peut-être plus utile. Si vous dites, « j'ai pas le temps », pensez-vous que ça vient juste d'aujourd'hui d'être des hommes super équipés, des hommes ou des femmes super occupés? Dans le temps de Jésus, il y en avait qui, à l'heure du souper, il envoyait son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Et tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je m'en vais les essayer, excuse-moi. » Puis l'autre, il dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » C'est tout du monde occupé. Il était tout marié, puis il y avait une entreprise, il y avait des bœufs, puis l'autre il avait une terre. Il fallait qu'il s'occupe de ses affaires personnelles, puis il a refusé l'appel du Seigneur qui était sur sa vie de venir à son banquet. Dans le même contexte, dans le même texte qu'on est en train de lire là, au verset 24, ça veut dire ça, c'est dans Luc 14, verset 24, il dit, « Car je vous le dis, c'est Jésus qui parle, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Tu as beau le savoir, avoir entendu l'appel du Seigneur qui t'appelle à rentrer, mais si tu n'es pas prêt à tout abandonner, tu ne peux pas rentrer. Et tu ne rentreras pas. Tu te penses chrétien, mais si tu n'obéis pas et si tu ne sers pas, tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui est au service de son maître. Servir Dieu, c'est à la maison, au travail, à l'église, dans la société, partout. mais dans un état, je suis en train de servir le Seigneur pour faire ça. Tu es en train de travailler sur ta job, c'est comme servir le Seigneur qui est en train de travailler sur ta job. Tu es dans l'Église, tu t'impliques, c'est pour le Seigneur que tu t'impliques. Il y a un besoin, là, je m'implique. Je connais des gens qui travaillent sans bon sens pour gagner leur croûte, 2-3 jobs, puis qui trouvent en plus du temps pour s'impliquer dans son œuvre. Depuis le début de la création, qu'il y a des semaines de séjour puis des journées de 24 heures. Depuis le début de la création, peut-être qu'il se dirait, j'aurais aimé ça que ce serait des journées de 8 jours puis de 9 jours. Il en avait juste 7 dans ce temps-là, comme qu'il y en a 7 aujourd'hui, puis il avait le même nombre d'heures dans la journée qu'aujourd'hui. Paul aussi aurait pu dire, ah, que la semaine passe vite. Lui, il aurait pu dire ça, lui aussi. Mais il s'impliquait dans l'œuvre du Seigneur. Il travaillait, mais il s'impliquait. Il allait évangéliser ici, évangéliser là, rentrer dans une autre église. Il allait parler du Seigneur pour édifier les autres. Il priait. Il dit nuit et jour dans les veilles, dans les peines, dans les souffrances, dans les exhortations, dans les combats, dans tout. Lui, sa vie entière est engagée pour le Seigneur. Je ne dis pas d'aller lâcher votre job pour commencer à faire ça à plein temps, à moins que le Seigneur vous appelle à le faire. S'il vous appelle à le faire, là, c'est une obéissance de le faire pour devenir serviteur. Mais dans les choses de base qu'il nous a demandé, comme au travail, d'aller travailler, gagner notre pain, ça fait partie du service pour Dieu. Mais dans son Église aussi, chercher le royaume et la justice en premier, ça fait partie de sa vision qu'il veut qu'on ait. Regardez dans l'Église les différentes tâches à accomplir, puis impliquez-vous. Même si vous trouvez que les journées sont courtes et les semaines passent vite, arrêtez certaines choses qui sont peut-être secondaires et cherchez premièrement des choses pour son royaume. Alors regardez les trous dans l'église. Ah, il manque des profs à l'école du dimanche. Oups, il manque des personnes pour faire le ménage. Oups, il y a besoin d'une équipe d'évangélisation, besoin de personnes pour aller faire du porte-à-porte ou aller organiser une réunion spéciale. Oups. Il y a le groupe de musique qui s'en va à telle place pour aller bénir d'autres frères, fait qu'on va y aller. On trouve des trous un peu partout, là, puis on peut être là. Il y a des gens, tes voix, ils sont toujours là, parce qu'ils ont compris. Mais il faudrait que tout le monde pense comme ça. Être toujours là au service, être prêt à servir. C'est pas juste à quelques-uns de s'impliquer. Tous sont appelés à mettre leur don ou qu'il y en ait un, ou qu'il y en ait plusieurs. Tous sont appelés à mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Et vous n'avez tous reçu un en recevant le Saint-Esprit. Il s'agit de se laisser mener par le Seigneur pour le vivre. Si vous dites, « Oh, j'aimerais ça m'impliquer, mais j'ai de la misère à travailler selon l'idée des autres. » Ça peut arriver. Nous autres, des fois, mon patron, moi, il me dit, « Là, tu vas faire ça, comme ça. » Moi, dans ma tête, je sais que ça ne se fait pas comme ça. Là, j'y explique, ouais, mais tu ne penserais pas que si on ferait ça comme ça, là, ça serait mieux. Là, souvent, il dit oui. Mais des fois, c'est arrivé, il a dit non, tu fais ça comme ça. Lui, il veut blanc, et moi, je sais que c'est noir. Lui, il veut blanc, tu vas l'avoir blanc, je le fais blanc. C'est lui le boss. Des fois, on a de la misère à accepter de faire les choses comme l'idée de l'autre ou à la méthode de l'autre. Mais ça y va par autorité. Qui est établi dans l'autorité? On respecte l'autorité, puis on fait ce qu'on a à faire. Un jour, puis la Bible a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il va nous en confier davantage. Là, on va se ramasser davantage de fruits. Dans n'importe quoi qu'on fasse, on doit apprendre à pas juste penser à nous-mêmes ou à notre propre manière de fonctionner, mais à apprendre à nous soumettre à l'autorité en place, puis à rechercher à nous soumettre à la décision de la collectivité. Des fois, il y a des décisions qui sont prises dans l'Église, puis c'est dans le but d'arranger que ce soit le mieux pour toute l'Église. Des fois, ça fait pas notre affaire. C'est pas grave, faut dire. Que la gloire du Seigneur se fasse, ou que je m'en remets au Seigneur, tu peux dire ton conseil, mais tu te soumets parce que c'est dans le but de bénir l'ensemble. Ça s'apprend, ça. Comme je disais tout à l'heure, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si on veut être des vrais serviteurs selon le cœur de Dieu, il faut être prêt à apprendre l'obéissance, même si c'est des choses qui nous font souffrir. On peut demander à Dieu une grâce pour être capable de s'humilier. Jésus a dit, l'œuvre est grande, ou la moisson est grande, mais moi je dis l'œuvre parce que c'est l'œuvre, c'est l'ensemble, est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus a dit ça. Mais quand il nous a dit ça, il ne pensait pas juste prier le maître de la moisson d'amener plus de personnes qui s'assient dans l'église. C'est pas ça qu'il a voulu dire. Prier le maître de la moisson qu'il y ait plus d'ouvriers, c'est qu'il y ait plus de monde assis dans l'église qui se lève pour commencer à travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça qu'il a voulu dire le Seigneur. Même si on aura 3000 personnes assis, s'ils ne s'impliquent pas et ils ne font rien, ça ne sert à rien. S'il y a 3000 personnes qui étaient assises et qui se lèvent et commencent à s'impliquer et à servir Dieu, là, l'œuvre de Dieu avance. Cela, on rentre. Prier le maître de la moisson qui envoie d'autres ouvriers, d'autres personnes qui vont travailler. C'est un chantier de construction, la vie. C'est l'œuvre du Seigneur qui est en train de se construire. Ça prend des ouvriers qui veulent s'impliquer, apprendre les outils du Seigneur et à travailler. La Bible nous dit de devenir zélés pour le Seigneur. Romains 12, 11, ça dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Tu ne sais pas quoi faire pour son œuvre. Il y a un verset que j'aime pour m'appuyer là-dessus, dans Ecclésiaste 9, 10, qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Si tu ne sais pas quoi faire, en français, tout ce que tu es capable de faire, fallait. Parce que quand on va mourir, il n'y a plus rien que tu vas pouvoir faire. C'est pendant qu'on est vivant qu'on peut faire de quoi. Puis tout ce que tu es capable de faire, fallait. Tes capacités vont remonter, puis tu vas être capable d'en faire d'autres choses encore plus grandes. C'est pas important de savoir si tu as atteint des œuvres plus hautes que toutes les autres qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas grave, ça. C'est pas ça qui compte. C'est est-ce que tu fais les œuvres que Dieu s'attendait à ce que tu fasses. Ça, c'est important. Tu peux avoir fait moins d'œuvres qu'un autre, mais tu as fait les œuvres que Dieu s'attendait de toi. Tu es dans son plan, puis tu as accompli 100% la volonté de Dieu dans ta vie. N'oubliez pas la parole que Jésus a dit à propos du serviteur inutile. Quand il avait distribué des talents, 5 à un, 2 à l'autre, puis 1 au dernier. Les autres, il y en a celui qui n'avait eu 5 selon sa capacité, à la fin de sa vie, il t'a rendu à 10. L'autre n'avait reçu 2 selon sa capacité, mais à la fin de sa vie, il t'a rendu à 4. L'autre, celui qui n'avait rien qu'un talent, il est allé l'enterrer. Il dit, les autres n'ont bien plus que moi, puis là, je ne sais pas si ça va être reconnu devant le Seigneur, mais lui, il l'a enterré. Qu'est-ce qui est arrivé à ce serviteur-là? Avez-vous déjà lu le verset qui est écrit dans le même contexte? Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À quelque part, il n'y a pas de place pour un serviteur inutile. Quelqu'un qui ne veut pas servir. Si tu es chrétien aujourd'hui, tu es un serviteur de Dieu, et Dieu, il veut que tu serves dans son église, que tu serves dans cette société, dans ta maison, partout où tu passes. Mais pour les serviteurs fidèles, dans Matthieu 25, le verset 20 à 23, ça dit, « Celui qui avait reçu les 5 talents ou les 2 s'approchant en disant, j'en ai 5 autres ou qu'il y en avait 2 autres de plus, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. Peu importe combien vous en avez, enterrez-les pas. Vous n'avez tout reçu un. Sortez pas d'ici, t'as dit, ouais, ben moi, je suis pas comme les autres, j'en ai pas. Non. Tous ont reçu au moins un talent, mais enterrez-les pas. Impliquez-vous. Il y a des visions de certaines choses qui doivent se faire dans Châteauguay. Il va y avoir des feuilles avec les où est-ce qu'on peut mettre notre nom pour s'impliquer. Impliquez-vous. Il va y avoir un cours sur l'évangélisation. Il va y avoir de la pratique après, puis il va y avoir besoin de personnes pour s'impliquer. Impliquez-vous. Il va y avoir des outils qui sont remis, une méthode qui va être simple, que tout le monde peut faire. Mais ça prend des ouvriers dans sa moisson. Si on veut qu'un jour le Seigneur nous dise, rentre dans la joie de ton maître, Mais mettons-nous tout de suite à l'œuvre pour être des serviteurs selon le cœur de Dieu.